Bienvenue. Bienvenue pour le 12e épisode de Déclencheur, le podcast qui parle photo. Trois segments dans cet épisode. Le premier segment sera consacré à l'Écosse. Le segment principal est une interview avec Philippe Barré. Et le troisième segment concerne vos commentaires et vos réactions. Suite à l'épisode 11 consacré au développement RAW, un certain nombre d'entre vous m'ont contacté pour savoir où acheter le Y-Ball en Belgique ou en France. Nous avons décidé d'organiser une commande groupée, et si ça vous intéresse, vous aurez tous les renseignements dans la section commentaires. Notez dès à présent l'adresse du site web www.déclencheur.com, c'est là que vous pourrez vous abonner, et on supporte l'abonnement par email, par iTunes ou par RSS, poster un commentaire ou une réaction ou retrouver les liens de l'épisode. Premier segment, donc l'édito. Et comme promis, je vous reparle de l'Écosse, qui est vraiment une terre de photographie. Alors l'Écosse n'est pas un pays très connu chez nous, et je crois que c'est dommage, parce que c'est un véritable paradis pour la photographie de paysage. Nous l'avons déjà visité deux fois, et à chaque fois, nous avons vraiment été séduits par la nature sauvage et la beauté de l'Écosse. Il y a deux mythes concernant l'Écosse que je voudrais vraiment corriger. Premier mythe, la météo. Alors c'est clair qu'en Écosse, il pleut plus souvent que chez nous, mais nous avons aussi apprécié de très belles journées ensoleillées. Et même sur les journées un petit peu moins belles, un rayon de soleil peut vraiment changer complètement le paysage et vous donner l'occasion de réaliser des photos exceptionnelles. Donc même là, ça vaut la peine de sortir. Deuxième mythe, la nourriture. Moi, je trouve qu'on mange très très bien en Écosse. Les ingrédients sont frais, sont très goûteux, ce qui donne l'occasion, surtout dans les villages, aux restaurants, de préparer des plats qui sont vraiment délicieux. Ce qui ne gâche rien, ces restaurants sont complètement non-fumeurs. Ce qui veut dire que votre poisson, vous pouvez en apprécier l'arôme, en apprécier l'odeur, même chose pour le vin, et c'est un vrai régal. Vous allez me dire, tout le monde ne partage pas mon avis sur la question, mais Blingo est mort, donc il n'aura pas à écouter cet épisode. Et si vous ne connaissez pas Blingo, visitez les aventures sonores d'Eric, qui est un ami podcasteur. Je mettrai le lien sur le site. Quelques infos pratiques si vous souhaitez vous rendre en Écosse. La première chose, c'est qu'il faut être prêt à se déplacer, donc il faut avoir une voiture. Ça veut dire que si vous y allez en avion, je vous conseille de louer une voiture sur place. Ce qui est peut-être plus simple, vous prenez le bateau avec votre voiture. Il y a des ferries au départ de Zeebruges qui vont directement jusqu'en Écosse. À ma connaissance, il n'y a pas de ferry au départ de la France, mais vous pouvez également vous arrêter dans le nord de l'Angleterre et faire la fin du trajet en voiture. Le ferry est vraiment très pratique parce qu'il voyage la nuit, donc on ne perd pas de temps, et en plus, il y a un accès Internet. Pour loger, comme je le disais à l'instant, l'idéal, c'est d'être mobile. Et donc, la meilleure formule, c'est le B&B, c'est-à-dire le logement chez l'habitant, ce qu'on appelle le bed and breakfast. Il y a un excellent système de réservation auprès des offices du tourisme. Vous vous présentez, vous dites où vous voulez être demain, la gamme de prix, et ils vous trouvent le B&B dans la région. Si vous souhaitez séjourner du côté de Drumadrochit, donc ça c'est le Loch Ness et toute la région autour d'Inverness, je peux vraiment vous recommander le Glenrowan House, qui est là où nous avons séjourné cette année. On a été très très bien accueillis. Et si vous y allez, dites-leur que vous venez de la part de Benoît, Pascal et Sophie. Au niveau du matériel photo, c'est surtout du paysage, donc vous prenez un équipement pour le paysage. Prévoyez quand même un petit bonnet de douche ou un sac plastique pour protéger l'appareil quand il y a un peu de pluie. Deuxième segment, l'interview avec Philippe Barré, un spécialiste de la nature morte gastronomique. C'est Frédéric Vergès, un auditeur qui nous a mis en contact, donc merci à Frédéric. Vous allez l'entendre, Philippe est vraiment passionné par son métier. Et puis il va nous expliquer pourquoi quand on achète un livre de cuisine, on n'arrive jamais à refaire la recette comme sur la photo. Alors, je suis avec Philippe Barré, qui est un photographe spécialiste de la nature morte gastronomique. Philippe, la nature morte gastronomique, c'est pas très, très courant, ça, comme spécialité?
C'est une spécialité. Donc, déjà, effectivement, on est un nombre peut-être un peu restreint là-dedans. Mais c'est une spécialité parce qu'on l'a fait avec une passion pour peut-être déjà le sujet avant même la passion de photographe. Moi, j'ai été photographe avant de faire de la gastronomie. Je suis venu là-dedans par hasard et j'y suis resté parce que j'y étais bien, parce que je suis très gourmand et que dans ce milieu-là, je côtoie des grands chefs, je côtoie des bons produits, je les utilise, je les façonne et je les prends en photo et je les mange.
Ce qui ne gâche rien.
Ce qui ne gâche rien.
Comment est-ce que tu es arrivé à devenir photographe?
J'ai fait ce qu'on fait fréquemment, on faisait fréquemment, c'est-à-dire j'ai adhéré au club photo d'une maison des jeunes. J'ai appris à développer la photo noir et blanc, j'ai trouvé ça très intéressant. La passion a pris le pas sur tout le reste et j'ai pas eu d'autres idées pour faire mon métier. ça me paraissait évident que je pouvais être que photographe derrière.
Donc ton parcours, c'est le parcours d'un passionné?
Ah, complètement. Complètement. Et il m'est arrivé de me poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? J'ai jamais trouvé.
La nature morte gastronomique, comment est-ce qu'on aborde ce genre de sujet? Donc, quels sont exactement les débouchés de ce genre de photos?
Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses parce qu'il y a effectivement les magazines culinaires. Il y a les magazines tout court parce qu'on peut constater à l'heure actuelle, dans presque tous les magazines, on a des pages cuisine. C'est devenu, en tout cas en France, je ne connais pas le reste de l'Europe à ce niveau-là, mais en France, n'importe quel magazine féminin, de toute façon, a au minimum une page cuisine, mais ça s'arrête pas aux magazines féminins. Tous les magazines télé ont des pages cuisine. Tous les magazines spécialisés, éventuellement dans le jardinage, vont nous faire de la page cuisine avec des légumes, ou à thème en tout cas, et la cuisine est de partout. C'est bien d'être photographe culinaire en France pour ça. À côté de ça, bon, ben, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des chefs de très grands restaurants. Donc, j'ai cette chance de côtoyer, ben, toutes les meilleures tables de France et de faire les livres de quelques-uns des plus grands chefs. Et ça, c'est quand même, pour moi, c'est extraordinaire. Aller travailler dans des établissements comme le Crillon à Paris, comme l'Hôtel Meurice, des choses comme ça. Jamais j'y aurais accédé dans d'autres circonstances. Et non seulement j'y accède, mais je traite avec peut-être les meilleurs chefs du monde. Donc ça, c'est fantastique. C'est fantastique.
Et alors, comment ça se passe, justement?
C'est les rencontres. C'est les rencontres parce que, bon, bah, depuis quand même quelques années que je travaille là-dedans, je me suis beaucoup déplacé pour des magazines, pour des éditeurs. Lorsque je me déplace pour ces gens-là, bah, je rencontre les chefs de cuisine. Et puis, si le travail qu'on fait avec eux pour cette occasion les intéresse, leur plaît, et qu'eux ont un projet personnel à développer, c'est là que la rencontre, elle débouche vraiment et que des projets voient le jour. Le livre que je suis en train de terminer en ce moment, c'est une rencontre tout à fait par hasard, à un moment où le chef cherchait quelqu'un pour faire les photos de son livre. J'ai travaillé avec lui sur un magazine, on s'est super bien entendu, et il m'a demandé de faire le livre avec lui. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça que ça se fait, en tout cas, pour un photographe provincial comme je suis. Puisque moi, je suis dans le nord de la Drôme, donc pour situer la vallée du Rhône, 100 km en dessous de Lyon, c'est pas vraiment le milieu des éditeurs parisiens.
Non, mais c'est quand même une région un peu gastronomique.
Oui, mais c'est pas très important dans le sens que mes interlocuteurs, ils sont en Bretagne, ils sont à Paris, ils sont à Lille, ils sont à Marseille. C'est pas un problème, ça. Par contre, les éditeurs parisiens, pour être un petit peu presque péjoratif, mais les éditeurs parisiens, si on va pas les voir chez eux, c'est pas eux qui vont venir me chercher. Jamais. Les chefs viendront, mais pas les éditeurs. Donc quand on n'est pas parisien, il faut avoir un bon réseau de relations autres, ou alors prendre le train tous les 15 jours pour dire « Coucou, j'existe, n'oubliez pas ». Qu'on ait du talent ou qu'on n'en ait pas, je crois que de toute façon, il faut sans arrêt se rappeler à leur bon souvenir, quoi.
Et tu parlais du travail avec les chefs tout à l'heure. Comment est-ce que ça se passe? Tu connais le plat avant? Tu participes à l'élaboration de l'image ou...
ça arrive. C'est-à-dire que, bon, généralement, la démarche pour faire les photos d'un livre... C'est une longue discussion au départ. Qu'est-ce que le chef veut montrer? Qu'est-ce qu'il veut faire ressentir? Est-ce qu'il veut être descriptif, sensuel? À qui il s'adresse? Hein, si c'est un livre de chef qui s'adresse à des chefs, on va pas faire les mêmes choses, les mêmes images que dans un livre qui va s'adresser au grand public. Les attentes sont pas du tout les mêmes. Pour résumer, on va dire que lorsqu'on fait un livre pour des professionnels, on va être beaucoup plus froid et technique, on va être beaucoup plus descriptif. Le lecteur, lui, il attend quelque chose. Il attend de pouvoir comprendre, de pouvoir détailler tout ce qu'il y a dans l'assiette. Il veut tout voir. Donc, c'est pas la peine d'aller lui faire des effets de flou, de lui faire des effets de ceci ou de cela. Ça l'intéresse pas. Le livre, il l'achètera pas. Lui, il veut comprendre. Le grand public, il s'est un petit peu formé une idée dans sa tête que ce qu'il trouve dans un livre... il n'arrivera pas à le réaliser dans le même aspect. Mmh. Hein, généralement, moi, c'est ce qu'on me dit, vos photos, ouais, c'est super joli, et puis nous, quand on essaye de le faire, ça ne ressemble pas, on n'y arrive pas.
J'allais te poser la question, quel est le
voilà.
truc?
Alors, moi, la réponse, elle est très simple. Il y a des sujets, si on les montre en photo, tels qu'ils sont dans l'assiette lorsqu'on veut les manger, on n'aura pas envie de les cuisiner. Il faut, je vais dire tricher, j'aime pas bien le mot, mais il faut adapter. Faut adapter parce que quand j'ai une page de livre sous le nez, j'ai peut-être une belle image, j'ai peut-être une belle recette, mais j'ai pas l'odeur, j'ai pas la proximité, j'ai pas le toucher possible, j'ai qu'une dimension pour faire rêver sur cette recette. J'ai donc que la couleur, la brillance, la texture apparente. Donc avec ça, faut que je donne envie. Quand je suis au restaurant en tant que dégustateur, des fois je prends l'assiette et puis je la regarde. Je me dis, est-ce que tu ferais une photo là-dessus ? Et bien souvent, c'est non. Et pourtant, tout le monde autour de la table va dire, oh, qu'est-ce que c'est beau ces assiettes. Et ouais, mais on a tous le nez dedans, on a tous les autres dimensions, la convivialité aussi du moment, parce qu'on est rarement dans ces restaurants tout seul. Et tout ça fait que l'aspect peut être différent de celui d'une image. On va modifier les cuissons, par exemple. Très souvent, on va moins cuire. On va moins cuire parce qu'un légume qui est bien cuit, il s'effondre, il n'a plus de couleur, il est triste, il ne fait plus envie. Si je mets un haricot vert, il faut qu'il soit vert.
Pour faire ces photos, justement, comment est-ce qu'on s'y prend ? Quel est le matériel que tu utilises ?
C'est du matériel, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Il n'y a pas d'objectif à cuisine. On n'a pas d'objectif pour avoir des belles cuissons. On n'a pas, non. Moi, j'utilise du matériel moyen format avec dos numérique et de l'éclairage studio de type flash électronique, tout ce qu'il y a de plus basique et ordinaire. Ça ne va pas chercher très loin. On va dire que je réalise 99% de mes photos avec deux torches, deux flashs, quoi. Sur les flashs, je mets ce qu'on appelle des bols, on appelle vulgairement des bols, donc des réflecteurs, pareil, très basiques. J'utilise très 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 rarement des boîtes à lumière, des parapluies, c'est vraiment une lumière simple. Des bols, éventuellement un petit nid d'abeilles, mais pas systématiquement, et des réflecteurs, du polystyrène blanc qu'on achète chez tous les bons marchands de bricolage, voilà. Ça s'arrête essentiellement là. Ça, c'est pour le matériel que j'achète chez les marchands de matériel photo. Après, la bidouille, ça va être des bouts de verre, des bouts de carton, des bouts de papier, des petits trucs que je vais interposer entre ma lumière et mon sujet pour casser des lumières peut-être trop linéaires, trop vives. Mais là, on rentre dans un domaine qui est très difficile à expliquer avec des mots parce que moi, si on me demande avant une photo comment je vais la faire, je le sais jamais. Je connais évidemment le sens de ma lumière, mais après, tous les petits artifices, les petits miroirs, les petites loupes, les choses comme ça que je vais rajouter, c'est avec mes yeux que je le fais, ça. Je regarde, ça va pas, je modifie, voilà. Mais là, on n'est plus du tout dans du matériel photo, quoi. Nous, ici, on garde, au studio, on garde des bouteilles non colorées, hein, des bouteilles transparentes, de différentes formes, de différentes hauteurs, épaisseurs, et on joue avec ça. On les interpose entre la lumière et le sujet, et ça va nous faire des effets qui sont souvent imprévisibles, mais qu'on capte avec notre œil, hein, de toute façon. Hein. C'est pas du hasard à la sortie. Mais on dispose, on déplace, on regarde. Voilà.
Et tu abordes comment ? Tu as des, je veux dire, des mécaniques, entre guillemets, que tu répètes, ou c'est vraiment de l'expérimentation jusqu'à ce que ça te plaise ?
C'est un mélange des deux. Il y a, pour moi, la lumière basique, de toute façon, elle ne vient jamais de devant. Elle ne vient jamais de devant parce que c'est une lumière qui aplatit tout. En gastronomie, on a très souvent des choses fines dont on a besoin de capter la transparence. Donc ça, c'est qu'est-ce qui nous fait une transparence ? C'est une lumière de l'arrière ou de trois quarts arrière. Mes loupiottes, elles viennent jamais vraiment, ouais, plus près que le côté du sujet. Après, elles se rapprochent plus de l'appareil, c'est plus possible. Après, on aplatit trop. Après, si j'ai besoin, ça va être d'autres renvois par miroir, par réflecteur, un peu de tout type, de toute nature d'ailleurs. Hein. Si je la résume, ma lumière basique, c'est une trois quarts arrière, plus ou moins haute. Là, c'est le sujet qui commande. C'est l'aspect que je veux lui donner. Mais de toute façon, quand on dit pour faire du paysage, il faut se lever tôt le matin, se coucher tard le soir, en studio, c'est la même chose. On n'a pas besoin de se lever tôt, de se coucher tard, mais on met notre lumière soleil rasant ou de début ou fin de journée, quoi. De toute façon, faire ressortir une texture, il n'y a pas bien d'autre solution que de faire accrocher la lumière sur des petites choses presque imperceptibles des fois.
Moi, j'aime bien cuisiner. Et alors, j'ai une recette de pain qui plaît pas mal à mes amis. Et ça va faire pas mal de temps que j'aimerais bien l'illustrer. Et je ne sais pas trop par où démarrer ça.
Par quoi démarrer ? Ah. Par l'idée qu'on se fait du sujet, à mon avis. C'est-à-dire que bon, le pain, c'est un bon sujet parce que d'abord, c'est esthétique. Moi, j'aime beaucoup le pain et il y en existe tellement de sortes que celui que je vais choisir pour une photo, il y a une évocation qui va avec. Si c'est un pain de mie, si c'est un pain aux céréales, si c'est un pain viennois, par exemple, bon, ça sera pas la même chose. C'est pas la même, dans ma tête, c'est pas la même évocation. Alors, je raisonnais sur une image que je vais faire pour moi, pour le plaisir, pas pour un client. Donc, c'est moi qui vais me définir mon ambiance, comment j'ai envie de le voir. À partir de là, bon, je vais le faire, mon pain. Je vais réunir les accessoires éventuels dont je peux avoir besoin, le son, voire le fabriquer éventuellement, le son aussi. Et puis, le mettre en scène et le mettre en lumière. Le mettre en scène, c'est le faire vivre avec le décor, avec les accessoires. Et quand je dis décor et accessoires, c'est pas forcément beaucoup de choses, hein. C'est les petites babioles qu'on va rajouter, si on en rajoute. Bah après, il va falloir affiner la lumière, l'amener pour qu'on retrouve sur l'image l'émotion qu'on peut ressentir par rapport au pain qu'on a choisi.
Donc, outre l'aspect éclairage dont on a déjà parlé, il y a aussi un aspect mise en scène, en fait.
Oui, la mise en scène, ben ça, c'est parfois le gros problème. C'est trouver comment faire vivre l'objet sans lui voler la vedette. Le compléter en aidant le spectateur à comprendre ce qu'on veut dire. Ça va être par la couleur, ça va être par les objets. Je vais être très basique dans mon propos, mais si j'ai une photo de couscous, je vais reconstituer un univers Afrique du Nord. Si je suis dans le saumon, je vais reconstituer la Norvège dans mon studio, etc. Là, c'est pour finir de définir mon sujet. Hein. Alors ça, c'est un peu basique. Si on regarde beaucoup les magazines actuels, il y a très très peu de décors. Avec les objets à la mode actuellement, c'est des images assez dépouillées. Et ben, on va être plus dans la matière, dans la couleur. Pareil, d'une façon un peu basique pour la couleur, si on veut faire ressortir du rouge, il y a un moment, il va falloir un élément vert. Hein. C'est lui qui va faire que le rouge... On peut avoir une image presque toute rouge, on va s'ennuyer. Si peut-être que j'ai un tout petit point de vert, ça va suffire à ce que mon image, elle devienne éclatante, intéressante, belle, agréable à regarder.
Par le contraste entre les deux couleurs.
Voilà. Mais il ne s'agit pas non plus de faire une image rouge et verte, parce que ça va être une image ennuyeuse. Et les complémentaires, c'est sûr que ça fonctionne, mais on s'embête très très vite. L'image, on la voit, ah super, ça flash. Puis 5 minutes après, on l'a assez vue. Pour moi, c'est beaucoup plus subtil que ça. L'image, elle peut être pratiquement monochrome. Et c'est la petite touche qui va faire qu'elle ne sera pas ennuyeuse, mais c'est le fait que cette touche est très petite qui va faire que mon image, elle va vieillir beaucoup mieux.
Tu pourrais prendre un exemple ?
Oui, moi je me réfère à la peinture classique. C'est lors d'un stage que j'ai pu faire sur le thème du porte, qu'on a beaucoup parlé peinture classique. Et j'ai compris, j'ai compris que les peintres classiques, bon déjà ils avaient tout découvert bien avant nous, c'est évident, mais très souvent un tableau c'est une couleur dominante et des petits points d'apport de couleur pour faire vivre l'image, le tableau dans son ensemble. Donc quand on part de ça, pour composer une photo, je vais photographier des tomates, je vais mettre un fond rouge.
Pour rester dans la couleur.
Alors on va me dire, ah, mais c'est n'importe quoi, rouge sur rouge. Alors rouge sur rouge, d'abord ça peut marcher, c'est très beau. Ma lumière, elle est là aussi, il ne faut pas l'oublier ma lumière. Parce que pour moi, c'est même l'élément essentiel. C'est elle qui va faire que rouge sur rouge, je vais quand même y voir quelque chose. Et c'est là qu'il ne faut pas qu'elle soit plate, pour que le sujet ressorte. Et comme je disais tout à l'heure, tout rouge, peut-être que je vais m'ennuyer un petit peu. Et c'est là que les petites touches... Alors je dis vert, mais c'est peut-être pas vert forcément, et puis c'est pas non plus forcément le vert cru qui correspond directement, mais ces petites touches légères et subtiles, c'est celles-là qui vont faire que l'image, elle devient vivante et qu'elle devient belle, et qu'elle fonctionne, et qu'elle accroche le regard.
Alors tu parlais tout à l'heure du fait que tu travailles en moyen format, tu travailles en numérique, tu es plutôt argentique ?
J'étais argentique, je suis venu au numérique en douceur. En douceur, ça veut dire que je suis passé par l'étape de scanner mes hectas, un temps d'adaptation qui permet de comprendre comment ça fonctionne, qui permet de décrypter un fichier numérique, parce que c'est pas évident. Et puis, beaucoup de réticence, parce que moi, ce que je voyais dans les magazines en numérique, ça me faisait pas rire. Et puis, un jour, un représentant m'a montré un matériel, et puis ça a commencé à me titiller un petit peu, et puis après, j'ai voulu essayer. Quand j'ai essayé et que j'ai vu que j'arrivais pas à le prendre en défaut, en tout cas, pas facilement. Là, j'ai plongé. Et là, j'ai dit, OK, on va faire du numérique. J'ai aucun regret. J'en suis à 3 années de 100% numérique. Je ne me vois pas revenir en arrière. Pas une seconde.
Et donc, dans le débat aujourd'hui, tu es clairement pour la nouveauté, quoi.
Je suis clairement pour se faire plaisir avec le matériel qu'on aime. Donc, celui qui veut faire de l'argentique et qui me dit qu'il est heureux avec, c'est très bien pour lui. Il ne me fera pas changer d'avis, je ne voudrais pas essayer de lui faire changer d'avis. S'il est heureux, il n'y a aucune raison de le faire. Après, si on veut me faire comprendre que j'ai tort dans ma démarche, ça ne va pas être facile. J'ai quand même un peu fait le tour des deux choses. Je me suis formé aux deux, hein. Ça ne vient pas non plus tout seul. Il faut aussi faire des stages là-dedans, hein. Il ne faut pas, faut pas imaginer qu'on appuie sur le bouton, qu'on regarde l'écran, que c'est joli et qu'on est content. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais quand on a un peu appris, qu'on a appris à maîtriser ce nouvel outil, moi je crois qu'il offre des possibilités, enfin pour moi, qui sont considérables. Ça m'a ramené à l'époque, je dirais, où on pouvait se permettre de faire une photo et de la développer. Maintenant, je la redéveloppe sur un ordinateur, je la finis. Hein, je m'amuse pas, je suis pas un truqueur là non plus, c'est-à-dire que ça m'intéresse pas les photomontages. Par contre, utiliser l'outil pour obtenir le résultat, ça m'intéresse.
Donc tu couvres toute la chaîne en fait.
Oui, j'aime bien livrer un travail fini. Tout dépend, hein, mais c'est vrai que j'aime bien moi livrer un travail fini. S'il y a une petite chose à modifier parce que le produit qu'on nous a donné n'était pas tout à fait conforme à ce que veut le client, j'aime bien mener ce travail à fond.
Avec le développement du numérique, il y a beaucoup de gens qui découvrent la photo en ce moment. Est-ce que tu auras un conseil à leur donner ou est-ce que tu voudrais les mettre en garde contre un piège ?
Ce que je pense qu'on peut dire, et je trouve que c'est très important, c'est que lorsqu'on débute, souvent on fait cette erreur de croire qu'on n'arrive pas au résultat parce qu'on n'a pas le matériel. Et puis quand on mûrit un peu dans son métier, on se rend vite compte que d'avoir 150 000 flashs, ça ne sert à rien. Donc, beaucoup de simplicité. Donc, l'erreur à éviter, c'est d'accumuler du matériel et de se retrancher derrière. Et le conseil, c'est de dire, essayez d'être simple. Regardez la lumière du jour, d'où elle vient. Il n'y a pas 50 sources, il n'y en a qu'une. Accumuler du matériel si on en a besoin. Moi, c'est sûr que si on vient au studio, on va voir, je sais pas, 10-12 flashs. Mais 10-12 flashs, d'abord parce qu'avant, je faisais beaucoup plus de photos industrielles en usine et qu'il y avait des grands espaces à éclairer. Quand j'ai dit tout à l'heure que je travaillais la plupart du temps avec deux flashs, deux sources, c'est vrai. Parfois une, c'est des fois un petit peu difficile, mais une, deux, c'est très très bien. Quand je dis regardons dehors, il y a un soleil. Il y a un soleil et il y a un tas d'éléments autour. Si je suis près d'un mur, le mur c'est un réflecteur. Tout ce que je vais trouver autour, c'est des réflecteurs, c'est des diffuseurs et tout ça, bah, il faut s'en servir. Donc c'est pour ça que dans le studio, on utilise des bouts de carton et autres bouts de verre, parce que je complète ma lumière avec ça. Ma lumière, elle a un sens au départ, et si j'utilise deux torches, il y a de très fortes chances pour que mes deux torches aient leur point d'origine au même endroit, et qu'après, on les fasse pivoter l'une par rapport à l'autre, mais elles viendront quand même d'un seul point. Il n'y a qu'une seule source. La lumière, elle a un sens. Et après, le reste, c'est du complément.
C'est vrai que moi, un des trucs qui m'énerve le plus, c'est les gens qui disent « Si c'est une bonne photo, vous devez avoir un bon appareil. » Comme si c'était l'appareil qui avait pris la photo.
C'est un peu juste, l'appareil, pour ça.
Alors, il y a une question qui va peut-être devenir une habitude sur ces interviews. Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un bon photographe ?
Alors, pour moi, un bon photographe, c'est quelqu'un qui sait se servir de ses yeux. Je pense que ce soit en reportage ou en studio, on travaille pour du visuel, c'est-à-dire on travaille avec nos yeux, on travaille pour des gens qui vont se servir de leurs yeux aussi pour regarder nos images. Quelqu'un qui sait regarder en reportage, c'est quelqu'un qui, bah, peut-être dans un contexte banal, va repérer des choses. Les yeux, ils bougent tout le temps. Ils cherchent, et hop, il va repérer des éléments qui vont faire que la scène qu'il a sous les yeux, elle se débanalise, et à partir de là, il va la cadrer et il va faire une belle image ou une bonne image. En studio, c'est exactement la même chose. On se sert de ses yeux, sauf que la scène, elle n'existe pas. On va la refabriquer. Mais de toute façon, c'est la qualité du regard qui va faire qu'on va faire une bonne lumière, qui va faire qu'on va faire une bonne composition. Il y a tout sauf le hasard là-dedans. On peut avoir une belle photo par hasard, c'est arrivé à tout le monde, mais quelqu'un qui fait une bonne photo par hasard, si demain je lui dis puisque tu sais faire des bonnes photos, refais-en une autre, c'est pas sûr qu'il y arrive. Alors que quelqu'un qui a un bon regard, il va me refaire d'autres bonnes photos. Un bon photographe, c'est pas un jour en passant. C'est, on va dire, sur commande lorsqu'il s'agit de professionnels, de travailler. Mais de toute façon, c'est quelqu'un qui est capable d'isoler dans une scène les éléments importants. Il n'y a pas de hasard. Ou alors, il suffit d'être là au bon moment. Moi, je crois qu'il y a des gens qui sont jamais là au bon moment et d'autres qui sont toujours au bon moment.
Merci Philippe pour le temps que tu nous as consacré et les superbes photos qui illustrent cet épisode. Troisième segment, vos commentaires et vos réactions. Si vous laissez un commentaire, une suggestion ou un message d'encouragement, vous pouvez visiter le site www.déclencheur.com. Les commentaires textes sont gratuits, mais vous disposez également d'une boîte vocale qui est très pratique parce qu'il ne faut pas de logiciel, elle fonctionne par téléphone. Beaucoup d'éléments à couvrir dans cette section. D'abord, je vais faire le point sur Déclencheur. En septembre, vous avez téléchargé 20 000 épisodes uniques, donc hors doublon, et vous étiez plus de 1000 abonnés au flux RSS. Donc depuis que je vous ai demandé d'aider à faire connaître le podcast en juillet, la progression a vraiment été fulgurante, bravo. Le résultat de vos efforts, ben vous avez déjà pu l'apprécier dans cet épisode. Déclencheur devient crédible et donc il y a la possibilité d'organiser des interviews, des rencontres et donc des épisodes, je crois, de plus en plus pertinents. D'autres interviews vraiment passionnantes et qui vont répondre à des thèmes sur lesquels vous m'interrogez régulièrement sont prévues pour tout bientôt, donc continuons ensemble. Si vous parlez de Déclencheur à vos amis ou sur les forums, ou si vous avez distribué les cartes, ben continuez. J'en profite pour remercier Magali Moscardo qui nous a préparé des bannières qui permettent de rajouter un lien graphique vers www.déclencheur.com. Mais je voudrais aller encore plus loin et je cherche parmi vous une ou deux personnes qui pourraient m'aider à préparer et envoyer des communiqués de presse, faire un contact presse autour de Déclencheur. Donc si vous avez une expérience en la matière et que vous êtes prêt à aider bénévolement un podcast en croissance, n'hésitez pas, prenez contact avec moi. Enfin, avant d'arriver à vos commentaires, la commande groupée du Wyball. Donc, un certain nombre d'entre vous m'ont contacté suite à l'épisode précédent en me demandant où se procurer le Wyball en Belgique et en France. Et nous avons décidé d'organiser une commande groupée. Donc, le Wyball, c'est cette cible neutre que j'utilise dans le développement des fichiers RAW pour calculer la balance des blancs. Je trouve que c'est aujourd'hui sur le marché la cible la plus pratique et la mieux finie. Malheureusement, elle n'est disponible que directement auprès du fabricant, d'où l'intérêt en fait de faire une commande groupée. On va épargner sur les frais de port, etc. Tous les détails pratiques pour la commande sont sur le site, mais l'essentiel, c'est que si vous êtes intéressé, vous devez vous inscrire et envoyer votre paiement pour le 31 octobre ou plus tard. Vous avez donc 15 jours devant vous. Pour être franc, je ne pense pas gagner ne serait-ce que de quoi inviter Nicolas et Baptiste au restaurant pour les remercier de leurs efforts sur Déclencheur jusqu'à présent. Je dirais même que vu les frais d'import, etc., si on n'a pas une commande suffisante d'au moins 15 personnes, ben je risque même de perdre un peu d'argent. Si vous êtes intéressé par l'achat du Wyball, n'hésitez pas à passer par www.déclencheur.com plutôt que d'aller en direct auprès du fabricant. Vous épargnez les problèmes de douane, vous ferez une petite économie par rapport à l'achat direct et vous pouvez effectuer votre commande en français. Le paiement peut se faire par carte, Visa, Mastercard, par PayPal ou par virement, ce qui est complètement gratuit dans l'Union européenne. Alors, de nombreux messages d'encouragement reçus suite au dernier épisode et au mini, reçus de Damien S., de Dr. Jones, de Sogem, de Rémi, de Fred, de Samuel, d'un autre Fred, de Ben Chalet. Merci à vous tous pour vos encouragements et votre soutien. Concernant l'épisode précédent, donc le développement des fichiers RAW, il y a pas mal de commentaires qui sont arrivés. D'abord de Pacal qui dit préférer Bible Pro à Camera RAW. Il trouve aussi que les épisodes sont parfois un petit peu trop académiques. J'avoue que c'est plus facile de faire des épisodes conviviaux quand on est deux comme en interview. Mais si vous avez des idées sur comment améliorer le podcast, des idées concrètes, n'hésitez pas, prenez contact. FFS ne trouve pas Camera RAW dans Photoshop Elements, il me demande s'il en fait partie. Alors oui, donc Photoshop Elements est livré avec une version réduite de Camera RAW qui normalement s'active dès qu'on ouvre un fichier RAW. Donc il n'y a pas un menu pour déclencher Camera RAW, il faut ouvrir un fichier RAW. Si vous avez installé un autre plugin pour traiter les fichiers RAW, ben évidemment, Camera RAW, dans ce cas-là, ne s'ouvre pas. Par exemple, c'est le cas si vous installez le plugin qui est livré par votre fabricant avec l'appareil photo. Eric complète l'épisode en signalant que Picasa de Google supporte également le développement des fichiers RAW. Benzel était intéressé par l'épisode et demande si on ne pourrait pas traiter du développement pour créer des fichiers noir et blanc. Alors, c'est une demande récurrente de votre part concernant les fichiers noir et blanc. Nous sommes en train de préparer un épisode avec Nicolas Esposito pour justement traiter cette demande. Jean-Marc écrit parce qu'il constate des différences de rendu de couleur entre les applications, le plugin, l'application Photoshop et d'autres applications. Je suppose que c'est un problème de gestion de couleur. On va revenir sur ce sujet très bientôt. Je prépare une interview vraiment passionnante avec un grand spécialiste français du sujet. Régis s'interroge également sur la problématique de la gestion de la couleur, s'interroge sur l'achat d'une sonde d'écran et là aussi toutes les réponses dans l'épisode en préparation. Sylvain s'interroge sur l'utilisation d'une carte étalon en JPEG. Alors, soyons clairs, l'épisode précédent était vraiment consacré au RAW. On n'applique pas le même procédé si on est en JPEG. Et j'avais présenté la technique pour la balance des blancs en JPEG dans le premier épisode de Déclencheur. J'en avais brièvement reparlé dans l'épisode numéro 3. Sylvain souhaite également un épisode sur les filtres. Il y en a un qui est presque écrit, donc le temps de l'enregistrer, il devrait arriver tout bientôt. Concernant le mini sur la photo sous-marine, réalisé déjà avec Philippe Barret, Nicolas Esposito dit qu'il aime beaucoup la photo l'accompagnant. Maxime Grisna et Alexandre Baye proposent de réaliser un épisode plus complet sur la thématique de la photo sous-marine. Je rajoute cette idée à la liste des suggestions. Dès qu'on en a l'occasion, on fera un épisode sur le sujet. Sur l'épisode de la balance des blancs, Mr. Saul me fait remarquer qu'on dit Kelvin et non pas degré Kelvin, comme je l'ai dit dans cet épisode. C'est noté, merci de la correction. Il propose également l'utilisation du mot de bulbe et d'un chapeau en lieu et place d'un déclencheur souple pour les photos de nuit. C'est un bon conseil, visitez le site, vous verrez ses explications. Alexandre Baye m'écrit pour me dire qu'une de ses amies, Lucie Botti, participe à une exposition à un salon de la photo dans le 11e arrondissement. Le salon va regrouper différents photographes avec des techniques très différentes, donc ce sera une occasion intéressante de comparer justement différentes approches de la photographie. Le vernissage aura lieu le 3 novembre et je vous ai mis le lien sur le site web. Il me reste à vous dire merci de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur le site www.déclencheur.com. L'abonnement est complètement gratuit. Et s'abonner à un podcast, ça signifie simplement que vous recevez les nouveaux épisodes automatiquement. Toutes les infos pour ce faire sont sur le site et le prochain épisode devrait de nouveau être une interview passionnante. À bientôt !